Bienvenue sur Je suis écrivaine, le podcast qui me permet de le clamer haut et fort parce que je n'ai pas assez osé le dire. Je suis Emma Bonnet, écrivaine depuis plus de 12 ans, avec 13 romans achevés à mon actif et publiés depuis peu. Passionnée d'écriture, de lecture et de tout ce qui est synonyme de création, je partage ici mon expérience avec l'espoir de vous motiver, de vous inspirer, que vous soyez auteur, lecteur, les deux ou aucun. Écrire un roman et le publier, découvrir le monde de l'édition et s'y faire une place, participer à des salons et à des séances de dédicaces, voilà ce dont on parlera dans ce podcast. Grâce à mes années d'écriture, de nombreuses formations, des stages et des collaborations en maison d'édition, je vous partage ce que j'ai appris et ce que je continuerai d'apprendre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @mabonnetécrivaine, et vous abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement le premier chapitre de mon roman. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. La première chose que je voudrais faire, c'est vous remercier vraiment pour l'accueil que vous avez fait à mon podcast. Je m'y attendais pas du tout. Ça m'a rendue trop heureuse. Si vous voulez la vérité, je stressais de ouf parce que même si moi j'étais certaine de ce que je voulais faire et j'étais plutôt satisfaite de ce que j'avais fait, même si bon, ça aurait pu être encore amélioré, j'ai essayé d'abattre mon perfectionnisme. Forcément, c'est quelque chose de nouveau dans lequel je m'engage et du coup, ben, j'avais peur un peu des retours. J'en avais eu quelques-uns autour de moi, mais c'était mes proches et c'est, en fait, c'est les avis qui comptent le plus à mes yeux, évidemment. Mais d'un autre côté, peuvent être un peu biaisés parce que du coup, ce sont des personnes qui me connaissent, qui m'aiment et qui s'intéressent dans tous les cas. Même si, bien sûr, Chloé, je sais que tu vas dire que tu es parfaitement impartiale. Tous mes proches ont adoré mon podcast et vous tous sur Instagram qui avez écouté avez adoré aussi, donc je suis trop heureuse. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Tout votre soutien, vous êtes très nombreux à avoir écouté tout de suite, enfin, dans la journée en tout cas. Ça m'a boosté quoi, de fou, donc je vous remercie vraiment, vraiment. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce format, j'en écoute depuis longtemps. Et je pensais pas du tout en créer un, mais ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai envie. Pendant que je travaille, comme mon esprit vagabonde souvent, j'ai souvent plein d'idées pour plein de choses. Et vraiment, le podcast, ça avait commencé à s'insinuer dans ma tête, et j'avais de plus en plus des idées d'épisodes, j'avais tellement de choses que j'avais envie de dire parce que les posts Insta sont tellement courts, il y a des messages beaucoup plus forts que je veux faire passer, donc voilà, c'était trop important pour moi. Je pense que c'était aussi plus simple parce que je fais pas de vidéo, je suis pas trop dans le visuel, je sais pas du tout monter. Bon après, j'avais pas monté pour le son non plus, j'avais pas du tout comment faire un podcast. Je me suis un peu cassé la tête, mais j'ai fini par trouver comment on fait et vraiment, je regrette pas du tout. Donc vraiment, merci beaucoup et je vous encourage tous à faire ce dont vous avez envie. Si vous avez un projet comme ça qui vous tient à cœur, que vous hésitez, faites comme moi dans le sens où quand j'hésite et que j'ai un peu peur, je ne parle pas tout de suite de mon projet autour de moi. C'est un petit aparté, mais je trouve que c'est important. La technique que j'utilise, c'est que quand j'ai un projet et que je sais pas trop comment vont réagir les gens, que certains peuvent émettre des réserves, ils peuvent avoir des doutes ou me transmettre leur inquiétude, et moi, je suis vraiment une éponge par rapport à ça. Je sais que ça peut vraiment me freiner. Alors, ce que j'ai développé et ce qui marche de fou, c'est que quand j'ai un projet que je veux mettre en place, j'en parle qu'à 2 ou 3 personnes de confiance où je sais qu'elles vont m'encourager avant tout. C'est-à-dire que leur première réaction va être ultra positive. Je le sais. Et du coup, ça me booste forcément. Ces 2 ou 3 personnes m'encouragent à le faire. Du coup, je le fais. Je me démerde toute seule, je le fais dans mon coin, il y a 2 personnes qui le savent. Et ensuite, une fois que je l'ai fait, c'est là que j'annonce aux autres que je l'ai déjà fait. Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait, donc quoi qu'ils disent, je m'en fiche, je l'ai fait. Et ça marche pour tout. Je pense vraiment que ça peut en aider pas mal d'entre vous. C'est vraiment pas la faute des gens. Ils font pas exprès, en fait. C'est juste que certaines personnes, selon comment elles fonctionnent, elles émettent d'abord leur inquiétude avant les encouragements et tout ça. Et selon comment toi tu es fait, c'est-à-dire moi, naturellement, j'ai pas trop confiance, j'ai besoin d'être un petit peu boostée. Si tu me transmets ton inquiétude avant ton encouragement, en fait, je vais percevoir que ton inquiétude et ça va me renvoyer l'image que je ne suis pas capable de le faire. Alors, j'ai de la chance. Disons que la plupart du temps, quand tu me dis que je suis pas capable de le faire, je veux te prouver que je le suis. Mais il peut arriver que justement, même en voulant prouver que je le suis, je continue à avoir ces doutes et à me dire que je suis pas capable, ça me freine, ça fait douter de mon travail et de ce que j'accomplis. Et ces personnes, elles sont bienveillantes, ça veut pas dire que, enfin en tout cas dans mon cas, vraiment toutes les personnes qui émettent leurs inquiétudes d'abord, Je sais qu'elles m'aiment et qu'elles m'encouragent et ce premier réflexe, il me gêne. Au lieu de leur demander de changer, parce qu'on peut pas changer les gens, ils se rendent pas forcément compte, je vais pas leur demander de m'encourager d'abord. Enfin, vous pouvez le faire, mais moi, je le fais pas. Du coup, ben, j'annonce à la personne ce que j'ai fait une fois que je l'ai accompli. Comme ça, il n'y a que mes inquiétudes à moi. Reste dans un coin de ma tête parce que la peur, de toute façon, c'est un bon réflexe qui nous permet d'être vigilants. Et on a besoin de ça, mais il faut pas qu'elle freine. Et ma peur à moi me freine pas du coup, parce que j'ai cette notion de conscience des risques, mais c'est minime et c'est pas ce qui me drive. Ce qui me drive du coup, c'est les encouragements des deux ou trois personnes auxquelles j'en ai fait part, plus du coup la confiance que j'ai eue en moi, et c'est ça qui me permet d'aller au bout. C'est vraiment une technique qui m'a beaucoup aidée dernièrement. Et je parle vraiment de personnes très proches de moi. Peu importe en fait, l'essentiel c'est qu'après vous les préveniez, parce que bon, je pense qu'elles aiment être prévenues avant tout le monde. Vraiment le conseil que je partage c'est ça. Faites et dites après. Et en plus, c'est beaucoup plus facile parce que si vous dites aux gens quelque chose, ça vous engage un petit peu plus à le faire. Forcément, parce que vous avez une sorte de parole à tenir, même si vous n'avez pas de compte à rendre à personne, mais voilà, ça vous engage. Mais dire aux gens que vous avez fait quelque chose une fois que vous l'avez accompli, ça renvoie aussi une image plus valorisante pour vous, je pense. Ça fait que même si les gens critiquent après coup, ils vous admireront toujours pour l'avoir fait. Bref, aparté mis à part, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la raison pour laquelle je n'ai pas pris de nom de plume. Enfin, c'est à moitié un nom de plume parce que c'est mon vrai nom, mais c'est que les initiales. C'est vraiment une grande question pour les écrivains et j'ai l'impression qu'il y a autant d'écrivains qui ont un nom de plume que d'écrivains qui ont gardé leur vrai nom. Aucune solution n'est meilleure qu'une autre. On a chacun nos raisons de choisir l'un ou l'autre et c'est vraiment un choix personnel. J'ai longuement hésité. Au début, je m'étais pas vraiment posé la question. J'avais mis mon nom à moi, mais en fait c'est en discutant autour de moi et puis en faisant la formation de l'ICAR, dont je n'ai pas parlé dans ma présentation mais dont je parlerai aussi, que j'ai appris plusieurs choses sur le nom de plume et le nom d'auteur, le choix du nom d'auteur parce que c'est un choix marketing. Il y a aussi l'avis de certaines personnes autour de moi, notamment mon père qui pensait que c'était une bonne idée d'en avoir un. Je l'ai dit dans ma présentation, je pensais à Emma, le prénom Emma, E2MA. Et j'avais même fait un sondage en story pour vous demander ce que vous en pensiez. Il y avait beaucoup de personnes qui aimaient beaucoup. D'ailleurs, je crois que tout le monde, en fait, avait bien aimé. Mais personne ne m'avait dit « choisis celui-là ». C'est juste que tout le monde aimait bien Emma. J'ai hésité quand même avec l'approche de la publication de mon livre, parce qu'il fallait que je sache quel nom je mettais sur la couverture, sachant qu'elle était déjà faite. J'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. Et bon, il n'y avait pas énormément plus de l'un ou de l'autre, mais c'est mon cœur qui a choisi, on va dire. Avoir un nom de plume, ça permet un peu de préserver l'anonymat quand on veut bien séparer son écriture de tous les autres aspects de sa vie. Il y a par exemple des métiers où ça peut être mal vu d'écrire. Je l'ai appris en discutant avec quelqu'un sur Instagram. J'avais pas vraiment pensé puisque moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai aussi entendu beaucoup de témoignages sur des podcasts de personnes qui ne voulaient pas mêler les deux, qui voulaient pas que leurs collègues dans leur autre métier sachent que c'était eux qui avaient écrit telle histoire. Ça dépend aussi du genre de l'histoire, parfois on assume un peu moins, entre guillemets. Et ça se comprend totalement. Si on a écrit un livre érotique ou un gros thriller bien gore, on n'a pas forcément envie que les gens nous reconnaissent derrière et ça arrive. Vraiment, ce n'est pas mon cas, j'ai écrit majoritairement de la fantasy. Il y a aussi des noms de plumes par rapport aux éditeurs qui sont mieux dans certains genres. Par exemple, dans la romance, il y a un peu des noms de plumes qui font vendre, dans le thriller aussi, dans la fantasy aussi. Et il paraît aussi que c'est mal vu du point de vue des éditeurs, auteurs qui écrivent dans des genres très différents, voire opposés. La raison pour laquelle Lucie Castel, qui est la cofondatrice de l'ICAR, là où j'ai fait ma formation, et qui est une autrice qui vit de sa plume. Elle a donc deux noms de plume, Oren Miller et Lucie Castel. Bon, finalement, elle utilise plus le deuxième, mais donc ils vont finir par fusionner. Mais de base, c'était pour cette raison. Elle explique elle-même, les éditeurs préféraient qu'elle soit dans deux filières différentes, qu'on voit pas que c'est la même personne. C'est donc une raison tout à fait valable. Peut-être que la question se posera plus tard et que du coup, peut-être que je changerai d'avis. On verra à ce moment-là. Il y a vraiment une question de marketing derrière le nom de plume et il faut en avoir conscience. Moi, ce n'était pas trop mon cas avant de faire la formation ou de me renseigner ou d'écouter des podcasts dessus. Après, bien sûr, le nom de plume ne fait pas tout, hein. C'est pas parce qu'on a un nom super stylé qu'on va vendre des millions d'exemplaires et faire des best-sellers. Alors, les raisons pour lesquelles moi j'ai gardé Emma Bonnet au lieu de Emma. La première, c'est que tout simplement, j'ai toujours rêvé d'avoir mon nom sur une couverture. Comme j'en ai débattu avec ma meilleure amie, c'était une fierté personnelle, un rêve d'enfant. Et elle m'a dit, imagine ce que tu vas ressentir en le voyant sur la couverture de ton livre. En tous les cas, même le nom de plume, c'est moi. Mais avoir mon vrai nom, c'est différent. Et puis, c'est vrai que maintenant, c'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant, tous mes proches savent que j'écris, même les pas proches. En fait, maintenant, c'est la première chose que je dis quand les gens me demandent ce que je fais, puisque c'est la première chose que je fais dans ma vie. Donc au final, ça n'a plus trop d'importance par rapport à ma vie privée, même professionnelle, je n'ai pas de métier à côté qui... Enfin, je n'ai pas de métier à côté, en fait, à part un job alimentaire, mais il restera alimentaire, et je le ferai pas toute ma vie. Je n'ai pas de contraintes à cause de mon métier. Et puis une autre raison, c'est que je suis fan d'Harry Potter, j'admire beaucoup le travail de J.K. Rowling avec Harry Potter. Alors je sais qu'elle est sujette à controverses et débats par rapport à des propos qu'elle a tenus, sur lesquels je suis renseignée. Il n'empêche que je suis toujours admirative de son travail pour Harry Potter, parce que je suis quand même fan. Et il y a un petit côté, du coup, comme J.K. Rowling, Emma Bonnet. Bon, évidemment, c'est moins classe, mais ça fait un petit côté avec les initiales comme ça que j'aime bien. Il y a aussi une autre autrice que j'aime bien, c'est C.C. Hunter, qui a écrit Né à minuit, qui est aussi une de mes sagas que j'aime bien. Ça fait un peu à l'américaine, à part que Bonnet, c'est pas du tout américain. C'est une association un peu à Harry Potter. Et qui sait, peut-être que ça me garantira le même succès, en fait, que je rêvais. Voilà, la fin de ce podcast, c'est ça. Prenez un nom de plume avec des initiales et un nom de famille, dans le style de J.K. Rowling, et c'est bon, vous êtes certain de faire un best-seller. Ce n'est pas une décision gravée dans le marbre, c'est en tout cas ce que j'ai choisi pour... la publication du tome 1 de Passeurs de rêves et donc de la suite de la saga. Et pour mes autres livres en fantasy, La Chute des Anges, c'est pareil, je vois pas pourquoi je changerais, étant donné que c'est exactement le même genre. J'avais déjà mon compte Instagram avec ce nom, alors j'ai pas non plus 100 000 abonnés sur Instagram, mais du coup les personnes qui me connaissent sur Instagram connaissent déjà ce nom. Pour être honnête, je me reconnais dans les deux noms, Emma Bonnet et Emma. Mais il fallait bien choisir un moment et ça m'a pris la tête pendant quelques jours quand même. À ce propos, mon éditrice n'avait pas spécialement de préférence. Elle avait même proposé de garder mon nom en entier, pas seulement mes initiales. Donc je lui avais dit que je tenais à mes initiales, parce que mon nom est trop long à prononcer et tout le monde se plante, c'est pour ça, hein, j'ai l'habitude. Mais l'idée de faire comme Lucie Castel et de changer selon le genre que j'écris est toujours intéressante. Il y a aussi une autre raison très personnelle pour laquelle j'ai choisi ce nom, enfin qui m'a définitivement convaincue quand j'y ai pensé. Alors pour le coup, elle est ultra personnelle. Mais c'est qu'en gardant mon vrai nom, qui est au passage un nom commun, ce qui finalement permet de me protéger un petit peu, entre guillemets. C'est mon nom de famille. Et le nom de famille, par définition, c'est le nom de ma famille. Et ma famille, même si bien sûr, du coup, c'est le nom de ma famille côté mon père, alors que bah, y a aussi le côté de ma mère, bien entendu, même s'ils portent pas mon nom. Mais ils sont quand même symboliquement dans ce nom. Et en gros, c'est un peu comme si tous les gens de ma famille qui m'ont soutenu étaient avec moi sur la couverture des livres. Ils sont compris dans ce nom, tous les gens proches de moi au final. Ce nom est un peu celui de tout ce que j'aime au final, à commencer par mes parents et mon frère, et aussi mon grand-père, qui est mort quand j'avais 15 ans, et qui a été la première personne à croire en moi. Il savait que j'écrivais alors que je lui avais jamais dit, donc déjà. C'est aussi pour lui que j'avais écrit ce livre, le tome 1 de Passeurs de rêves, et je porte son nom, donc c'est comme si c'était lui aussi qui avait participé à ce livre, sachant qu'il écrivait et il a jamais publié son livre parce que bah il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, il a pas eu le temps au final avant de partir. Et du coup, bah, il publie un petit peu avec moi. Donc papy, tu auras ton nom sur la couverture de mon premier livre. Comment je pouvais ne pas prendre ce nom avec cet argument? On peut penser aussi que on a besoin de protection parce que donner son vrai nom, bah, c'est un moyen aussi de se montrer un peu vulnérable. Les gens ont accès à soi-même, mais de toute façon, même avec un nom de plume, les gens finiront par découvrir la véritable identité derrière. Ou enfin, voilà. Et puis c'est vrai que de nos jours, avec les réseaux, beaucoup de gens ont leur vrai nom en fait. Et évidemment, il y a des risques, mais ça, j'en suis parfaitement consciente. Et du coup, ben, j'ai choisi de les prendre. Mais en tout cas, comme je disais au début, il n'y a pas de choix meilleur qu'un autre. C'est le vôtre, et c'est tout ce qui compte. Je suis curieuse de savoir, d'ailleurs, si vous écrivez, si vous avez gardé votre vrai nom, ou si vous avez choisi un nom de plume, et pourquoi, surtout. Donc, si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram, parce que j'adore échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire. C'est vraiment une question qui m'intéresse. Il y a peut-être d'autres raisons que j'ai pas évoquées, qui vous tiennent à cœur à vous, et qui sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi l'un ou l'autre. Merci encore de votre écoute. Je disais donc que je pense sortir un épisode par semaine, Mais alors, je vais voir si je tiens le rythme. Parce que ça fait beaucoup de travail en plus de tout ce que je fais. Donc pour le moment, je vais essayer de sortir le lundi à 7h un épisode. Et si jamais je vois que c'est trop, je ralentirai un petit peu. J'en sortirai peut-être un toutes les 2 semaines. On verra comment je fais. J'arrive pas trop à évaluer pour le moment combien de temps ça va me prendre par rapport à tous les projets sur lesquels j'avance. En ce moment, je suis sur la correction de La Chute des Anges, tome 1. Donc c'est un peu moins long que d'écrire. Ce qui fait que j'ai un peu plus de temps, mais je vais devoir quand même passer beaucoup de temps à partir de mars sur la promotion du tome 1 de Passeur de rêve quand il sera sorti, parce que ce sera un énorme enjeu. Tout reposera dessus, puisque c'est mon premier livre publié, que je ne suis encore personne, et toute la suite de la saga, surtout le tome 2, dont il y a déjà la couverture, et je vous préviens, elle est mortelle! Donc je veux qu'il sorte, parce que ne serait-ce que parce que la couverture est absolument magnifique. Sauf que le tome 2 et les suivants dépendront des ventes du tome 1. Je vais devoir vraiment, vraiment essayer de bien promouvoir le tome 1. J'aurai besoin de votre soutien, j'aurai besoin que vous partagiez, que vous l'achetiez, que vous en parliez, parce que vraiment c'est ce qui m'aidera le plus. Et donc en me focalisant sur ça, j'aurai peut-être moins de temps autour. Je parlerai de mon expérience sur ce podcast, bien entendu c'est pour ça que je l'ai créé, mais voilà, si jamais j'ai pas du tout le temps de faire un épisode par semaine, je ralentirai. Mais pour le moment que c'est la lancée, c'est la sortie, je suis à fond, je vais partir sur ça. Si vous avez des idées de choses que vous voulez que j'aborde en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours preneuse, même si ça veut pas dire que je déciderai forcément d'aborder le sujet si je considère que je n'ai pas grand chose à dire dessus. Dites-le moi, il n'y a pas de souci, j'évaluerai si je le fais ou pas. À très bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et si vous êtes écrivain, osez le dire.